D'où ma dernière partie, bah, finalement, qu'est-ce qu'on va changer? Alors, ce qu'on va changer, vous voyez, c'est pas. Ce que je vais dire ici, c'est pas forcément la politique monétaire telle qu'on l'avait conçue jusqu'à présent, c'est pas tellement qu'on va la bouleverser, c'est qu'on va considérer qu'il faut, à côté de la politique monétaire de régulation macroéconomique telle qu'on l'a menée jusqu'à présent, peut-être sous une forme un peu différente, on va adjoindre à cette politique de régulation macroéconomique considération, un autre volet de la politique macroéconomique qui sera la politique macro-prudentielle, en fait, on va dire les politiques prudentielles. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est une question compliquée, et ce que je vais dire ici, ben, au fond, je vais poser des questions sans donner beaucoup de réponses, parce qu'il y a beaucoup de travaux qui sont en cours sur cette question, mais le problème institutionnel qui va être posé est un problème qui est réellement compliqué, sur lequel on n'a pas réellement de réponse définitive, en tout cas pas de réponse optimale aujourd'hui. Donc, d'abord, quand on parle de politique prudentielle, de quoi parle-t-on? Alors, on parle, vous voyez, il y a deux aspects. Il y a ce qu'on appelle la régulation micro-prudentielle. Alors, la régulation micro-prudentielle, c'est la régulation des banques, de chaque banque prise individuellement. J'ai mis ici à corps de balle, parce que vous savez que depuis la fin des années 80, il y a un comité appelé comité de Bâle qui travaille sous l'égide, ou enfin, abrité par la Banque des règlements internationaux, qui essaye de réguler les banques. Enfin, au départ, c'était les banques qui avaient des activités internationales. On se fiche de réguler des banques qui n'ont que des activités nationales, que des activités domestiques, parce que ça ne peut pas avoir d'impact sur le reste du système financier international. Et donc l'idée, c'était réguler les banques qui ont des activités internationales. Ça avait donné le ratio Cook ou encore les accords de Bâle 1, puisqu'on en est aujourd'hui à Bâle 3, et vous voyez ça régulièrement dans les journaux. Donc Bâle 1, c'était une première tentative pour réguler les banques internationales, et ceci en leur demandant de garder des fonds propres, des capitaux propres, en proportion de leurs actifs, et de façon un tout petit peu plus astucieuse que ça, en proportion des risques de ces actifs, des risques d'actifs. C'est-à-dire qu'on prenait l'ensemble des actifs et on les pondérait selon les catégories d'actifs par des coefficients qui donnait en définitive une évaluation du risque porté par la banque, et on demandait à la banque de garder des capitaux propres en proportion de ses actifs. Je parle au passé parce qu'ensuite sont venus les accords de Bâle 2, qui, dont l'objectif était de sophistiquer la méthode de mesure des risques, plus différentes autres dispositions sur lesquelles je ne vais pas détailler. Et donc, voilà, et puis ces accords de Bâle 2, la crise a montré qu'ils étaient très insuffisants. Je veux dire que les capitaux propres détenus par les banques étaient très insuffisants par rapport à ce qui aurait été nécessaire. Et là, j'espère qu'il y a des banquiers dans la salle. Franchement, il ne faut pas écouter les banquiers. Quand les banquiers vous disent qu'on leur demande de mettre trop de capitaux propres sur la table, c'est mensonger, un point, c'est tout. Voyez, vous pouvez considérer que ce qu'on demandait, en principe, enfin moi ce que j'ai enseigné d'ailleurs pendant assez longtemps, c'est les banques doivent avoir 8% de capitaux propres par rapport aux actifs. Alors, aux actifs, pondérez des risques, comme je l'ai dit. Si vous êtes banquier, avec Bâle 1, vous faites un crédit à l'immobilier hypothécaire, c'est compté pour 50%. Donc, si vous faites un crédit de 100, en réalité, je compte 50. Et c'est 8%, non pas par rapport à 100, mais 8% par rapport à 50. D'accord ? Bon, alors en fait, on disait, oui, mais enfin, sur les 8%, il y a 4% de vrais fonds propres, et puis 4% qui sont plutôt des titres subordonnés, en fait, de la dette junior, c'est-à-dire de la dette qui est remboursée après les autres. Bon, ce que nous a appris cette crise, c'est que finalement, ce n'était pas 4%, c'était 2%. C'était 2% de quoi ? 2% des risques tels que je viens de les décrire. Et il se trouve que, grâce à Bâle 2, quand vous faites le rapport actifs pondérés des risques, hein, ce que j'ai expliqué, les actifs que je multiplie par mes coefficients, etc., mais des coefficients aujourd'hui plus sophistiqués. 2%, alors ces actifs pondérés des risques, ça, c'est, en Europe, c'est 30% de l'ensemble des actifs. D'accord ? 30% de l'ensemble des actifs. Donc, ça veut dire que ce qu'on a demandé aux banques, c'est de détenir 2% de capitaux propres, 2% de capitaux propres, non pas par rapport à l'ensemble des actifs, mais par rapport à 30%, c'est-à-dire 0,6% de l'ensemble des actifs de la banque. Alors, j'imagine une conversation, un chef d'entreprise qui vient voir son banquier et qui lui dit, voilà, j'ai besoin d'un prêt. Le banquier lui dit, montrez-moi votre bilan, et le chef d'entreprise montre un actif dans lequel les capitaux propres représenteraient 0,6% de l'actif. J'ai peur que la discussion ne dure pas plus que les 10 secondes nécessaires pour appeler l'ambulance, parce que jamais aucun banquier ne prêtera à un chef d'entreprise. Et c'est aujourd'hui ce que les banquiers voudraient nous faire avaler, en disant c'est épouvantable, désormais on va leur demander 4,5%. Cette fois-ci, ce seront des vrais fonds propres. 4,5%, toujours pas du total de l'actif, 4,5% des actifs pondérés des risques. Bon. Fermons cette parenthèse. Ça, c'est le micro-prudentiel, ça plus quelques autres choses, aujourd'hui des ratios de liquidité. Donc, ce qu'on appelle les politiques prudentielles, le micro-prudentiel, c'est la régulation des banques prises individuellement. Simplement, ce que nous a fait redécouvrir cette crise, c'est le risque systémique. Le risque systémique, ce sont, comme je vais le dire, des phénomènes de contagion entre les différents établissements, entre les différentes banques. Donc, le macro-prudentiel, ce sont des politiques qui s'intéressent à la régulation de ce risque macroéconomique, c'est-à-dire ces phénomènes de contagion. Cette politique macroprudentielle a deux dimensions. Une dimension dite transversale, c'est-à-dire ce sont les phénomènes de contagion à un moment donné entre banques. Mettons, pour dire les choses simples, même si ce n'est pas exactement comme ça que se sont passées les choses durant cette crise, une banque fait faillite, elle met en difficulté la banque d'à côté qui était en rapport avec elle, qui elle-même met en difficulté la banque d'à côté, etc. Ce qu'on appelle l'effet de domino. Une banque, la faillite d'une banque qui a fait des bêtises éventuellement, va provoquer cascade de faillite, donc va faire tomber les autres banques. La dimension temporelle, elle, représente le caractère cyclique de l'activité financière, le fait qu'il y a des hauts, des bas, que toute l'histoire des systèmes financiers montre qu'il y a effectivement des phénomènes de bulles et puis des phénomènes de décrochage de l'évolution aussi bien des financements, c'est-à-dire du crédit, que des prix d'actifs. Et donc, autant la politique microprudentielle, c'est une politique qui est menée au niveau... il y a une régulation d'ensemble qui ensuite fait l'objet d'applications au niveau national, qui fait l'objet de supervision, c'est-à-dire qu'il y a des superviseurs, donc des surveillants, hein, qui viennent, en l'occurrence chez nous, l'autorité de contrôle prudentiel, avant... ce qu'on appelait la commission bancaire, qui vient vérifier auprès des banques que la réglementation est effectivement respectée. Donc, cette régulation microprudentielle, vous voyez, elle a un aspect oui, microéconomique, puisqu'elle s'adresse à chaque banque prise isolément. Lorsqu'on parle du macroprudentiel, il est juste de rapprocher ça de la politique monétaire, puisque la politique monétaire, c'est aussi une politique macroéconomique. En gros, on a la politique budgétaire, la politique monétaire, qui sont les grandes politiques, les deux grands volets de la politique économique. Et maintenant, en gros, on rajouterait un troisième volet qui serait cette politique macroprudentielle. C'est de ça dont il s'agit. Alors, quels sont les instruments de la politique macroprudentielle? Pour la dimension dite transversale, c'est-à-dire pour éviter les contagions, bon, on a évoqué plein de choses, en fait, hein, mais notamment des exigences de fonds propres complémentaires pour ce qu'on appelle les SIFIS, c'est-à-dire les grandes institutions systémiques. Et, en France, on considère que la Société Générale, la BNP le Crédit Agricole, alors je suis en train de me demander si BPCE en fait partie, c'est possible, oui, sans doute, oui. Donc on a quatre grandes banques qui sont de caractère systémique, donc qui devraient faire l'objet de demandes d'exigence de capitaux propres plus importants, avec l'idée que si ces institutions font faillite, elles risquent d'avoir des implications sur le reste du système financier. Il faut éviter ça. Et pour éviter ça, il faut qu'elles soient en mesure d'éponger une plus grande partie. Enfin, elles peuvent... Oui, parce qu'elles ont des... Elles polluent, quoi. Hein, plus que les autres, il faut qu'en même temps, elles puissent éponger ces éventuelles pollutions. Vous avez ensuite les découpages d'activités. Lorsqu'on dit qu'on va casser en morceaux les différentes banques, en mettant de côté les banques de financement et d'investissement et les banques, disons, la banque de détail de l'autre, c'est une façon d'éviter la contagion. Parce que, au fond, la contagion qui nous importe, c'est celle qui est la plus dangereuse, c'est celle qui concerne le système de crédit. Ce qui se passe sur les marchés, comme je vous l'ai dit, les crises sur les marchés sont peu importantes. C'est finalement lorsque les crises de marché viennent affecter le système de crédit que ça dégénère et que ça tourne mal. Donc, si vous découpez les activités, si vous mettez des murailles de Chine entre les activités de marché et les activités de crédit, vous avez des chances de stopper ces phénomènes de contagion en tant que de faire en sorte qu'ils soient moins dangereux qu'avant. Et alors, ce qu'on appelle les testaments bancaires consiste à dire, pour ces grandes banques, on va leur demander, pour les autres aussi d'ailleurs, on va leur demander des sortes de cartographies de découpage. Si elles ont des difficultés, on va pouvoir les vendre par appartement. Je sais que si, mettons, la Société Générale fait faillite, eh bien, il y a tel type d'activité qu'on pourra vendre de façon à la renflouer, à éponger les pertes, etc. Et ça, c'est quelque chose sur lequel les Américains ont beaucoup insisté. Nous, on le fait. On le fait aussi, mais on en parle moins. Donc, ça va se mettre en place. Ça, c'était donc la dimension transversale, c'est-à-dire les phénomènes de contagion à un moment donné. La dimension temporelle, quels sont les instruments? Alors, certains disent les taux d'intérêt. Au fond, ça reviendrait à ce que, dans ma règle de Taylor, je rajouterais des variables de stabilité ou d'instabilité financière. Je rajouterais, par exemple, la croissance du crédit. Je voudrais une certaine croissance du crédit. Je pense que la bonne croissance du crédit à l'équilibre, ça devrait être 10% par an. Eh bien, si le crédit évolue de plus que 10% par an, eh bien, je vais monter mes taux d'intérêt. Alors, ça, et c'est en gros le canal du crédit dont je vous ai parlé tout à l'heure, débouche sur cette idée, qu'il faudrait que désormais les banques centrales aussi bougent leurs taux d'intérêt en fonction de ces indicateurs d'instabilité financière. Je crois cette idée totalement fausse. Vous voyez, ce n'est pas parce que lorsque, je vous ai dit tout à l'heure, j'admets tout à fait l'argument, lorsque les taux d'intérêt sont faibles, les banques vont avoir tendance à prendre plus de risques. Lorsque on a l'impression que tout va mieux, les banques vont avoir tendance à prendre plus de risques. D'accord. Est-ce que c'est une raison pour monter les taux d'intérêt pour autant? Je dis non. Si les banques prennent trop de risques, le bon instrument, ça consiste à augmenter leurs fonds propres. C'est-à-dire lorsque, effectivement, je vois que les choses dérapent, eh bien, je dis, il va falloir que je durcisse la réglementation microprudentielle. Il faut que, j'ai un provisionnement des exigences en capitaux propres qui évoluent en fonction du cycle, mais pas les taux d'intérêt. Pourquoi pas les taux d'intérêt? D'abord parce que les taux d'intérêt, c'est un très mauvais instrument pour casser l'instabilité financière. Imaginez, si je veux casser une bulle de crédit, si je veux casser une bulle de prix d'actifs, de combien faudrait-il que j'augmente les taux d'intérêt pour arriver à être efficace? Pour casser, lorsque les prix d'actifs augmentent, mettons les actions augmentent, si vous voulez arrêter le processus, il faudra sans doute que vous augmentiez de 4%, 5% les taux d'intérêt. Et ça, ça va être mauvais du point de vue de l'activité économique. Ça veut dire, si je poursuis avec le même instrument deux objectifs différents, en fait, plus que ça, parce que j'ai l'inflation, l'activité économique. Si en plus j'ai cet objectif de stabilité financière, je vais vouloir poursuivre deux ou trois objectifs avec un seul instrument. Or, il y a une vieille règle en économie qui dit que il faut, si vous avez deux objectifs, il vous faut deux instruments. Donc, si vous avez ici deux objectifs, il faut que vous ayez plus qu'un instrument, c'est-à-dire le taux d'intérêt, pour tenter d'y répondre. Et l'autre instrument, si vous voulez, la régulation microprudentielle, et ça peut être aussi la régulation macroprudentielle, c'est-à-dire des réserves obligatoires qui seraient ciblées sur certains types de crédits. Ce serait la modulation des capitaux propres, c'est-à-dire le ratio de capitaux propres, les 4% dont je parlais tout à l'heure, ou les 6%, 7,5% à l'avenir, je vais le moduler en fonction de la conjoncture. Dette sur revenu, ça veut dire je vais demander aux banques, et ça, le superviseur peut le faire, je vais demander aux banques de, par exemple, de ne pas prêter plus de 80% du montant de l'investissement. Vous savez qu'aux États-Unis, au moment des subprimes, on prêtait en fait plus que 100%. C'est-à-dire que vous empruntiez pour acheter non seulement votre maison, mais aussi le frigidaire et la cheminée qui allait avec. Bon, il est clair qu'à un moment donné, ça devait poser problème. Donc, vous pouvez tout à fait imaginer de fixer un ratio dette sur revenu qui peut d'ailleurs évoluer dans le temps. Vous pouvez de la même façon... dette sur revenu, là je viens de décrire le loan to value, c'est-à-dire le montant des prêts par rapport à l'acquisition. Le dette sur revenu, c'est vous pouvez pas vous endetter pour plus que 4 ans de revenus par exemple. Alors, ce qu'on appelle le provisionnement dynamique, on va rentrer dans les détails, donc je vais arrêter, mais c'est simplement demander aux banques de faire des provisions avant le sinistre. Aujourd'hui, vous provisionnez lorsque vous avez observé qu'un débiteur a eu un incident de paiement, c'est-à-dire ne vous a pas remboursé, donc vous allez commencer à provisionner. Ce qui n'est pas une bonne idée, parce que finalement, vous allez constituer les provisions au moment où ça commence à aller mal. Il vaudrait mieux que vous provisionniez avant, c'est-à-dire au moment où vous faites le prêt. Au moment où vous faites le prêt, vous allez provisionner, en fonction d'un d'une loi statistique quelconque. Vous voyez que, en réalité, j'ai un peu triché. En parlant de politique macroprudentielle, j'ai évoqué un certain nombre d'instruments qui sont de l'ordre du microprudentiel. Je vous ai parlé d'ailleurs, le superviseur, le surveillant, il peut tout à fait demander aux banques, écoutez, là, ça ne va pas du tout, vous êtes en train de de stimuler le crédit de façon excessive, et donc je vous demande de modifier le rapport dette sur revenu ou prêt sur montant de l'acquisition. Je vous demande de constituer plus de capitaux propres parce que je trouve que le crédit va trop vite. Je vous demande, ce qui est vrai plutôt pour les pays en développement, de constituer des réserves obligatoires, par exemple sur vos entrées de capitaux. Ou je vous demande de constituer des réserves obligatoires sur les prêts que vous faites à tel secteur de l'économie. À la fin des années 90, la Banque de France avait mis en garde les banques contre les prêts excessifs qu'elles faisaient aux télécoms. Elle a mis en garde, mais ça n'a pas été plus loin. On pourrait imaginer que la Banque de France ait dit bah, « Écoutez, ça ne va pas du tout, vous faites des prêts aux télécoms et je trouve que vous prenez des risques insensés, donc je vous demande de constituer des réserves obligatoires élevé ou plus élevé sur ce type de crédit. On aurait pu le faire sur l'immobilier, ça n'aurait pas été bête de faire ça en Espagne. Donc, ça veut dire que, vous voyez, la frontière entre le macroprudentiel et le microprudentiel, elle n'est pas claire. Et même quelqu'un me disait dernièrement, qui est en charge un peu de ces questions, finalement, le macroprudentiel, on pourrait l'exercer à travers le microprudentiel et à travers notamment l'action des superviseurs. Donc c'est une idée qui est dans l'air. Mais vous voyez que la politique macroprudentielle, elle est aussi en interaction avec la politique monétaire. Puisque c'est vrai que quand je monte les taux d'intérêt, de toute façon, il va se passer quelque chose sur le crédit. De même que lorsque je demande aux banques, par exemple, d'augmenter leurs capitaux propres, ceci va avoir un impact sur la marge, le spread entre le taux de la banque centrale et le taux du crédit, ou l'inverse, la différence entre le taux du crédit et le taux de la banque centrale, cette marge va devoir s'accroître si je demande aux banques de conserver plus de capitaux propres. Donc, il y a des interactions entre politique macroprudentielle, politique monétaire, microprudentielle, je viens de le dire, et aussi politique budgétaire. Et aussi politique budgétaire, parce que, vous voyez, pour reprendre la question de l'immobilier, si vous donnez la possibilité aux emprunteurs de déduire, par exemple, les intérêts sur les prêts à l'immobilier qu'ils ont contractés, c'est une subvention que fait l'État à ce type d'emprunt, à ce type d'individu, et ça, évidemment, aussi, ça va forcer, ça va contribuer à la stimulation du crédit. Donc, ces différentes politiques, celles qui sont énumérées ici, sont en interaction. Et c'est ça qui crée le vrai problème institutionnel auquel on est confronté aujourd'hui. Parce que quelle est l'institution qui va être responsable de la régulation macroprudentielle? Et comment on va coordonner ces différentes politiques? Vous voyez qu'elles sont en interaction les unes avec les autres. Donc vous ne pouvez pas dire, il faut trouver un équilibre coopératif entre ces différentes politiques. Vous ne pouvez pas dire aux ces différentes politiques, vous faites ce que vous voulez, vous agissez en ordre dispersé, étant entendu qu'elles vont, en gros, se marcher sur les pieds et qu'on aura une solution sous-optimale. Alors, dans ces conditions, quels sont les différents modèles possibles? Vous voyez, vous avez le modèle d'intégration totale. En Irlande, par exemple, aussi en République tchèque, c'est la banque centrale qui fait tout. Probablement, la banque centrale est certainement une grosse responsabilité dans le macro-prudentiel. Mais il faut voir jusqu'où vous lui donnez cette responsabilité et comment ce que vous lui demandez en termes de coordination avec les autres politiques économiques. Alors, en Irlande, la la banque centrale, elle fait tout. Elle fait le micro-prudentiel, elle fait le macro-prudentiel. Alors, elle ne peut quand même pas faire la politique budgétaire, il ne faut pas exagérer, mais elle ne donne pas d'ordre à la politique budgétaire, mais la politique budgétaire ne lui donne pas non plus d'ordre, puisque la banque centrale est indépendante. Vous voyez, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que je vois que je suis en train de dépasser hein, l'horaire. Il y a, en gros, différents critères qui vont rentrer en contradiction les uns avec les autres. Il faut que l'autorité qui va être responsable de ça, d'abord, elle détienne des informations, les bonnes informations, pour pouvoir mener sa tâche. Et il faut aussi qu'elle ait la compétence pour les analyser. C'est pourquoi les banques centrales sont sans doute les institutions les mieux armées pour pouvoir faire ce job. Deuxième critère, il faut qu'on ait un mandat clair pour cette institution et en même temps que cette institution ait suffisamment de pouvoir pour qu'elle puisse prendre les décisions, mais aussi qu'elle puisse rendre compte, enfin qu'elle soit réellement responsable et qu'elle puisse rendre compte de ce qu'elle fait. Et troisième critère, il faut que l'autorité en question, elle puisse assurer et assumer une bonne coordination entre les instruments, les institutions, tout en préservant l'autonomie des uns et des autres. Vous voyez, cette question de l'autonomie, de l'indépendance hein, de l'institution, elle est quand même importante. Autant je suis assez réservé sur l'histoire de l'indépendance de la Banque centrale. Autant, lorsque vous allez faire du macro-prudentiel, je ne vois pas bien comment on peut faire ça si l'autorité en question n'a pas une indépendance suffisante. Imaginez ce qui se serait passé si, par exemple, lorsque on a vu dériver le crédit en Espagne au milieu des années 2004-2005, qu'est-ce qui se serait passé si la Banque centrale européenne avait dit ben, « En Espagne, on va mettre des réserves obligatoires plus élevées. » Ou simplement, imaginez si aujourd'hui, une autorité politique décidait que les banques font trop de crédit et qu'on va leur demander de réduire l'évolution du crédit. Et ça va être une levée de bouclier. Et étant donné la capacité de lobbying incroyable du système bancaire français comme de tous les autres systèmes bancaires, je peux vous assurer que ça ne se fera pas. Donc, c'est vrai que l'indépendance, en termes aussi bien de micro-prudentiel que de macro-prudentiel, c'est important. Que ce que les économistes appellent la capture du régulateur, c'est une question également importante, c'est-à-dire le fait que le régulateur, à un moment donné, en vient à raisonner comme l'institution qu'il régule, comme les gens qu'ils sont censés réguler. J'en ai d'expérience relativement récente, j'ai entendu dernièrement le gouverneur de la Banque centrale, la Banque de France, dans une interview à un journaliste qui s'appelle M. Bourdin, je crois, un truc dans le genre, qui reprend à la télévision un argument que j'avais entendu un mois avant à l'Association professionnelle des banques. C'était sur le découpage des banques. Monsieur le gouverneur de la Banque de France est en même temps le président de l'autorité de contrôle prudentiel. Donc, désormais, quand je dois enseigner à mes étudiants la capture du régulateur, je prends le cas de Monsieur Noyer. Donc, voilà. Donc, ceci pour dire, voyez que cette question de la régulation est une question importante. Alors, les trois critères que je viens d'énumérer, ben, c'est très difficile. Ils sont conflictuel quelque part. Et donc, étant conflictuel, c'est difficile d'arriver à trouver une bonne solution. En France, on a quelque chose d'intermédiaire. Vous avez des modèles, la Suisse par exemple, un modèle où c'est une séparation totale entre les différentes institutions de régulation, entre la politique monétaire, la politique microprudentielle et la politique macroprudentielle. Du coup, il n'y a aucune coordination possible. En France, on a un système intermédiaire. Il y a un conseil du risque systémique qui est présidé par le ministre de l'économie qui, dans ce conseil, on retrouve la Banque de France, on retrouve les superviseurs. Donc, vous avez en gros la politique monétaire, la politique budgétaire, la politique microprudentielle qui est représentée. La politique monétaire, elle est représentée pour autant que M. Noyer a un pouvoir au sein de la Banque centrale européenne. Donc, il a un siège dans le Conseil des gouverneurs, mais ce n'est pas lui qui fait la politique monétaire de l'ensemble de l'Europe. Donc, c'est une vraie question. Et on n'a pas, je pense qu'on n'a pas de bonne réponse à cette question institutionnelle essentielle. Comment on fait pour avoir une politique macroprudentielle, vous voyez, c'est-à-dire l'introduction des préoccupations de stabilité financière à l'avenir, pour prévenir ces crises financières, alors que la politique monétaire ne le fait pas, et je pense ne peut pas le faire. Donc, comment on fait pour faire ça? En préservant l'indépendance des uns et des autres, mais en assurant leur coordination, en faisant en sorte que leurs décisions soient suffisamment informées. Ce qui en effet. Alors, le cas de l'Europe dans cette affaire. Alors, je parle l'Europe en conclusion parce que c'est un cas intéressant. Parce que, comme d'habitude, l'Europe une multitude de solutions totalement hétérogènes. Enfin bref, c'est le bazar, quoi. Enfin, ce qui est pas un scoop. Donc, en Europe, vous avez un Conseil européen du risque systémique. C'est tout récent, hein, un Conseil européen du risque systémique. Le problème, c'est qu'il compte 69 membres. Donc c'est facile pour se mettre d'accord. 69 membres, tous ne votent pas. Je crois qu'il y en a un tiers là-dessus qui ne vote pas, qui regroupe les superviseurs de l'ensemble des pays, les gouverneurs des banques centrales, etc. Ce Conseil européen de stabilité financière... Du risque systémique. Ce Conseil européen du risque systémique est présidé par le président de la Banque centrale européenne et le secrétariat est aussi assuré par la Banque centrale européenne. Mais, de toute façon, il n'a pas de pouvoir, il émet que des avis. Des avis qui sont transmis à la Commission qui en fait ce qui lui paraît utile de faire. Et donc, il peut y avoir des adresses, des avis envoyés aux différents pays, mais est-ce que les pays vont suivre les avis? Ils n'ont aucune raison de le faire. Et ensuite, au niveau de chaque État européen, alors chacun fait comme il veut. Je vous ai dit, l'Irlande a une solution tout à fait intégrée, la France a une situation intermédiaire, je pourrais citer d'autres pays, donc chacun, la France est dans une situation assez proche des États-Unis. L'Allemagne est dans une autre case. Donc, il est évident que ça ne va pas marcher. Enfin, je veux dire, ça va être très difficile d'arriver à avoir une vision d'ensemble et, de surcroît, d'arriver à associer la politique monétaire européenne qui, elle, existe avec cette politique macroprudentielle qui est en devenir. La BCE, d'ailleurs, la Banque centrale européenne, refuse l'extension de son mandat pour enfin, l'extension de son mandat à la stabilité financière, parce qu'elle sait que ça va mettre en cause son indépendance. C'est fatal. Si vous devez parler avec le microprudentiel, avec le macroprudentiel qui intègre dans ses rangs les gouvernements, puisque les politiques budgétaires, vous voyez bien que ça va évidemment remettre en cause l'indépendance de la Banque centrale européenne. Et pour cette raison, elle ne veut pas. Elle ne veut pas, elle s'oppose à l'extension de son mandat à la stabilité financière. Alors, cela dit, je trouve que ces instruments macroprudentiels, ils peuvent être néanmoins utiles à la politique monétaire européenne, dont on voit bien aujourd'hui que, et c'était d'ailleurs une grande partie de la thèse d'Alexis, dont on voit bien aujourd'hui, on mesure mieux qu'on ne le faisait au moment où vous avez écrit votre thèse, à quel point cette hétérogénéité des pays, mettre tous les pays sous une même politique monétaire, en passage en leur interdisant d'ajuster leur parité, leur taux de change. On voit bien que ça pose problème. La politique monétaire qui devait être menée en Espagne en 2004-2005 ne pouvait pas être la même que la politique monétaire qui devait être menée en Allemagne. La politique monétaire qui devrait être menée aujourd'hui du point de vue de l'Allemagne serait certainement beaucoup plus restrictive que celle qui convient aux pays du Sud, en gros. Donc, ça ne va pas. Et peut-être que ces instruments macroprudentiels, vous voyez, l'utilisation de ces instruments macroprudentiels pourrait redonner une certaine flexibilité aux pays, par rapport à la politique unique qui est menée au niveau européen. Si, par exemple, demain, le Conseil, notre Conseil du risque systémique français, décide d'augmenter les réserves obligatoires sur certains types de crédits, bah, évidemment, ça va rendre la politique monétaire française plus adaptée à ce dont nous avons besoin, et on va pouvoir ainsi s'écarter de la politique monétaire unique qui doit être menée pour répondre à la moyenne, puisque la politique monétaire européenne, elle est menée en fonction de l'ensemble des pays, donc la moyenne pondérée de ces différents pays. Donc, je parlais des réserves obligatoires, parce qu'en effet, ça peut être une bonne solution. En tout cas, ça aurait été certainement une bonne solution dans le cas de l'Espagne, parce que c'était une façon, en effet, de brider l'évolution du crédit. Je pense que politiquement, ça aurait posé des problèmes, de toute façon. Mais je pense que ça aurait été une bonne solution de mettre en place ce type de politique, et ça permettait à l'Espagne, de mener une politique monétaire qui aurait été plus adaptée à ses besoins de l'époque, et peut-être que ça aurait évité ce qui s'est passé par la suite. D'une certaine façon, c'est un moyen très détourné, j'en conviens, de remettre en cause l'indépendance de la Banque centrale européenne, dont je pense qu'en effet, elle est excessive, non pas pour des raisons de principe, mais pour des raisons pratiques de fonctionnement de nos économies. Et je vous remercie de votre attention. Donc, l'idée, c'est maintenant que vous posiez des questions. Et donc, je les attends. Oui ? Ah oui, oui.
Non, il y a deux questions qui m'interpellent dans votre présentation. La première, c'est que vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas eu le temps, mais le débat sur le niveau de la cible de l'inflation. Il y a Blanchard qui a pris position,
Oui, oui. J'avais prévu d'en parler, d'ailleurs. Ça devait être quelque part caché. Et en effet, alors, bon, l'idée, c'est, finalement, je ne suis pas sûr que, en termes de stratégie, les stratégies de politique macroéconomique dans leur dimension régulation macro, je ne parle pas du macroprudentiel, ça ne devrait pas forcément changer énormément de choses. Je ne vois pas de raison, en gros, de remettre en cause ce que vous avez fait, je veux dire, l'analyse des règles monétaires, le principe des règles monétaires contingentes. Je ne pense pas qu'il faille mettre dans la règle des prix d'actifs, etc. Mais il faut à côté cette politique macroprudentielle en coordination avec la Banque centrale et probablement en donnant une forte responsabilité à la Banque centrale. Maintenant, sur les objectifs d'inflation, ça c'est bon, les objectifs eux-mêmes, ça, oui, je pense en effet qu'il faut aller vers un objectif d'inflation plus élevé. Pour les raisons que j'ai un peu expliquées tout à l'heure, en disant si vous avez un objectif, si vous mettez votre inflation moyenne à 2%, la probabilité pour que cette inflation passe en dessous de zéro est fatalement plus forte que si vous avez une inflation de 4%. Si vous mettez votre inflation à 4%, la probabilité pour que ça passe en dessous de zéro, donc pour que vous tombiez sur le cas de figure où la politique monétaire devient inefficace, cette probabilité est plus faible avec un objectif d'inflation à 4 qu'avec un objectif d'inflation à 2. Je pense qu'à l'avenir, l'inflation sera fatalement plus volatile. Donc que la probabilité de passer en dessous des zéros est forte, et que donc ce serait bien d'avoir un objectif d'inflation plus élevé. Donc je suis en effet complètement d'accord avec Blanchard. Rappelez-vous, quand on a commencé à travailler sur la règle monétaire pour la Banque Centrale Européenne, on avait déjà dit, je me rappelle d'une discussion avec un de nos collègues, que cet objectif de 2% était probablement trop faible et qu'il fallait un objectif d'inflation plus élevé. Alors, quand je dis ça aux Allemands, ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, ils disent, mais y compris d'ailleurs, c'était une discussion avec une syndicaliste, ils sont résolument hostiles à ça. Je veux dire, même les syndicats, même c'était un organisme de conjoncture très, très proche des syndicats, quoi, de IG Metall. Et elle disait non, pas du tout, on ne remet pas en cause cet objectif de 2%, parce que pour eux, c'est vraiment un casus belli, y compris donc du côté gauche de l'échiquier politique allemand. Alors elle me disait, de toute façon, l'objectif de la Banque Centrale Européenne, c'est 2% en moyenne, donc 2% sur le long terme. Donc après tout, s'il y a des sauts comme ça, on peut les autoriser. Il suffit que la Banque Centrale Européenne elle soit suffisamment intelligente pour comprendre que aujourd'hui, ça fait 2,5%, ça fait 3%, mais ce n'est pas grave, parce que ce qui est important, c'est qu'on revienne en moyenne à long terme sur 2%. Bon, sauf que ce n'est quand même pas ça qu'a fait la BCE. On se rappelle, l'augmentation des taux d'intérêt totalement grotesque de juillet 2008, on était quelques semaines avant Lehman Brothers, quoi. La Banque Centrale Européenne trouve bon d'augmenter le taux d'intérêt parce que le prix du pétrole augmentait. Or, la Banque Centrale Européenne, elle ne peut rien faire sur le prix du pétrole. Donc c'était une source totalement exogène par rapport à elle, par rapport à l'Europe. Donc elle l'a fait, et qui plus est, quand même, c'est vrai qu'on oublie ces trucs-là, mais bon, heureusement d'ailleurs, en avril, la Banque Centrale Européenne a encore monté, la Banque Centrale Européenne a encore augmenté ses taux d'intérêt parce qu'elle voyait un risque inflationniste. Monsieur Draghi, dès son arrivée, a baissé le taux. Mais enfin, bon, voilà. Donc ça, c'est fait, quand même. Donc, oui, je pense en effet que l'idée d'avoir au moins pendant un certain temps, pour plein de raisons, notamment parce que on n'a quand même rien trouvé de mieux que l'inflation pour résorber les dettes. Hein. Bon. Donc, que pendant un temps, parce que c'est la façon la plus indolore, c'est tout. Et qu'en plus, ça n'a pas les inconvénients que tout le monde se plaît à signaler. C'est pas vrai, contrairement à ce que disait l'ancien président de la BCE, que ce sont les plus faibles systématiquement qui subissent les dégâts de l'inflation. Ceux qui subissent les dégâts de l'inflation, ce sont ceux qui ont des revenus fixes. Hein. Et Keynes disait l'inflation, c'est l'euthanasie du rentier. Bon, cette question, en effet, de remonter l'objectif d'inflation est une question, en effet, importante. Et moi, je suis assez partisan, oui, de l'augmenter. Oui. Mais c'est une conséquence de la crise. Alors, en plus, je pense qu'on pourrait imaginer, pour rassurer nos amis, nos frères allemands, on pourrait tout à fait imaginer de le faire pour un temps donné. Dire, bon, voilà, sur les 3 ans qui viennent, on aura un objectif d'inflation qui sera à 4% plutôt qu'à 2%.
Il y a un truc qui est une strate de complexité supplémentaire quand même dans le macro-prudentiel, c'est qu'on reproche souvent aux autorités publiques un manque de bienveillance dans l'identification des problèmes, dans l'avis. On est incapable de nous donner une norme d'évolution du crédit, là, on ne sait pas combien c'est. Comment est-ce que, compte tenu du nombre de leviers dont disposerait l'autorité est-ce que vraiment on peut être sûr qu'il y aurait une autorité qui aurait la bienveillance nécessaire pour atteindre cet objectif? On sait bien, la crise systémique elle est très coûteuse, donc du coup on dit on est obligé de le faire, mais vraiment on serait capable d'être efficace?
J'en suis pas sûr du tout. Mais bon, comment on fait à l'avenir pour régler ces problèmes de stabilité financière? On a mis le doigt dans un engrenage, celui de la déréglementation financière, qui fait qu'on a un système financier qui est compliqué, dont on voit bien qu'il est susceptible d'être instable, qui donne la possibilité aux banques de faire du contournement, de l'arbitrage, comme on dit, réglementaire. Bon. Comment on fait pour se préoccuper de ces questions de stabilité financière ? Je crois qu'on ne peut pas le négliger. On ne peut pas dire, c'est vrai que c'était la solution de facilité, dire, bon, écoutez, c'est pas grave, l'instabilité financière, de toute façon, quand ça se produira, on verra, on épongera. Bon. C'était évidemment une façon de refuser de traiter le problème. Après avoir porté au nu Alan Greenspan, on l'a... On l'a chargé de tous les maux de... Et je pense franchement à tort pour une grande partie. Alan Greenspan n'est pas coupable d'avoir baissé trop fortement pendant trop longtemps les taux d'intérêt aux États-Unis. Il est coupable d'avoir trop déréglementé le système financier américain. Bon, je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est vrai que lorsqu'il a pris sa retraite, il y a eu une session de l'American Economic Association sur l'héritage Greenspan. C'était début des années... milieu des années 2000, quoi. Et donc, on voulait fêter, bon. Et il y a un économiste... Américain très connu dans ce domaine, Calum Iris, qui a dit, en fait, ce qu'a fait Greenspan, c'est qu'il a dealé avec la profession bancaire. Il a dit à la profession bancaire, OK, je vous laisse déréglementer, particulier le Glass-Steagall Act, 99. Mais en contrepartie, vous me fichez la paix sur ma politique monétaire. Donc, n'oubliez pas qu'aux États-Unis, la banque centrale n'est pas indépendante. Statutairement, elle n'est pas indépendante. Alors maintenant, l'histoire a montré qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut au gouverneur, au président de la Fed, puisque Greenspan avait montré qu'il était capable de dire non à George Bush, le père, et qu'il lui a fait perdre, enfin, on dit qu'il lui a fait perdre l'élection présidentielle. Donc, un président de la Fed, ça a du poids, même si la Fed elle-même n'est pas indépendante, ce qui prouve que cette histoire de l'indépendance est quand même un peu, enfin, une histoire un peu bizarre. Pour préserver son indépendance, Greenspan a dealé avec le lobby bancaire, comme ça. Vous me laissez mener ma politique monétaire, et je vous laisse déréglementer. Et je crois que le gros reproche qu'on doit faire à Greenspan, c'est ça, mais c'est pas sa politique monétaire, quoi. Alors maintenant, bon, une fois qu'on a dit ça, c'est-à-dire une fois qu'on a dit on ne peut plus se permettre de négliger la dimension stabilité financière, parce que le système financier est de toute façon devenu très instable et que ce n'est pas uniquement la réglementation bancaire qui peut le restabiliser, ne serait-ce que parce que, bon, là on parle de la réglementation des banques, mais on sait qu'à côté de ça, il y a le fameux shadow banking system, c'est-à-dire le système bancaire parallèle ou le système bancaire fantôme qui est là et qui est en gros, totalement déréglementé jusqu'à présent. Donc, on est obligé de faire quelque chose. Institutionnellement, c'est un véritable puzzle. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie une dernière fois de votre attention.